Et c'est en Tunisie à présent que nous sommes dans cette auberge espagnole. Comme chaque semaine, un des membres de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier vient à notre micro pour présenter une action, une campagne ou un dossier de la LDH. Aujourd'hui, c'est Patrice qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On est ensemble pour évoquer les élections qui viennent d'avoir lieu en Tunisie. Qui sont un petit peu les premières du genre, on peut dire ça comme ça.
On peut dire ça comme ça, mais il faut aussi faire un rappel historique. Les élections qui viennent de se dérouler sont des élections à une assemblée constituante. Pourquoi les Tunisiens, après avoir renversé leur dictature là, au mois de mars dernier, ont-ils tenu absolument à faire une assemblée constituante? Et pourquoi la Ligue des droits de l'homme s'intéresse-t-elle à une assemblée constituante? Alors je voudrais tout simplement vous rappeler que la constituante, c'est la première de nos grandes assemblées révolutionnaires. La constituante, c'est le tiers-État qui s'est proclamé Assemblée nationale, puis ensuite l'Assemblée nationale qui s'est proclamée Assemblée constituante, très exactement le 9 juillet 1789. Ça a été vraiment, pour nous, la première étape de la Révolution. Et ensuite, je voudrais rappeler que la constituante, avant de se consacrer à la rédaction d'une constitution, elle a rédigé, publié, voté, un texte qui s'appelle tout simplement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fin août 1789.
Donc,
ça nous intéresse donc directement.
Voilà, on peut être dans l'expectative de voir si une déclaration ou en tout cas une constitution bien bétonnée au niveau des droits de l'homme puisse être rédigée à ce moment-là.
Eh oui, le mot constitution est important pour les Tunisiens. Important parce que ce sont les premiers à avoir eu, dès 1861, une constitution, certes très monarchique, qui visait à émanciper un peu le bey de Tunis de la tutelle ottomane, et pour laquelle il avait obtenu l'appui des consuls français et anglais. Bon, passons là-dessus. La première constitution qui compte véritablement, c'est celle de 1959, qui a été rédigé et proclamé par Bourguiba, le père de l'indépendance tunisienne. Bourguiba était membre d'un parti qui s'appelait le Néo-Destour. Et Destour, c'est un mot arabe qui veut dire constitution. Lors de cette constitution de 59, Bourguiba a beaucoup, beaucoup réfléchi parce qu'il est arrivé au pouvoir en 56 et la constitution n'est votée qu'en 59. C'est un juriste, Bourguiba. Et il a particulièrement réfléchi à l'article 1er de cette constitution qui va nous intéresser beaucoup. Article 1er de la constitution de 59, la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. Sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la République. Que va devenir cet article? C'est un gros point d'interrogation.
En termes de laïcité, par exemple.
En termes de laïcité, par exemple. Le scrutin du 23 octobre était un scrutin de liste au plus fort reste. Il y avait 7 500 000 électeurs potentiels en Tunisie et à l'étranger. 6 circonscriptions ont été ouvertes à l'étranger, 33 circonscriptions en Tunisie. Et il y a eu 1600 listes de candidats, plus de 12 000 inscrits sur ces listes. C'était véritablement... parler à juste titre d'un avènement de la démocratie, mais c'est un foisonnement de la démocratie. Alors, qu'en est-il sorti? Les résultats officiels n'ont été proclamés qu'hier, le 14 novembre, alors que l'élection était donc le 23 octobre. Il y a eu quelques contestations, des choses à régler. Sur les 7 millions d'électeurs potentiels, il y a eu 4 millions de votants. Donc 54,1%. On a beaucoup dit il y a trois semaines qu'il y avait eu une marée de votants. C'est quand même pas tout à fait juste. Mais quand même, c'est très très important. 54,1% de votants dans un pays qui était sous une tutelle d'une dictature féroce depuis des années, c'est très important. On a vu d'ailleurs, à la télévision des scènes où les gens faisaient la queue pour voter. Et ils ont manifesté une volonté véritablement d'user de la démocratie. Qu'est-ce qu'il en sort? 217 sièges étaient à pourvoir. Sur ces 217 sièges, 89, à peu près 40%, 89 pour Ennahda, Ennahda, le pays, ça veut dire la renaissance, c'est le parti de Rached Ranouchi et de Hamadi Djabali, c'est le parti qui se veut un parti islamiste modéré. On a été assez surpris de voir qu'il faisait d'emblée autant de voix.
C'est pas étranger au fait que le parti sous la dictature a été assez actif pour les populations.
Et oui, Ennahda a profité de son action, du fait qu'il avait été mis à l'écart complètement, que ses dirigeants ont été emprisonnés. Ranouchi était en exil à Londres pendant des années, il a connu la prison également. Donc, ils ont eu une politique sociale très très avancée, donc effectivement ils s'appuient là-dessus. Le deuxième arrivé à l'élection, c'est le CPR, le Congrès pour la République, de Moncef Marzouki, un leader historique qui a connu lui aussi la prison. Il était le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Et M. Marzouki, qui a plus de 70 ans maintenant, donc avec ce parti du Congrès pour la République, obtient 29 sièges. On peut dire que c'est un peu la gauche nationaliste. Troisième, intéressant, la pétition populaire pour la justice et le développement. Le parti de quelqu'un qui était très particulier, Hashmi Hamdi. Il a dirigé sa campagne de Londres. C'est un riche homme d'affaires tunisien. Il tenait une chaîne de TV qui s'est consacrée 24 heures sur 24 à l'élection, la télévision Al-Mukatila. Et il obtient 26 députés à ce Parlement. On peut dire que c'est un peu un parti populiste qui émerge là. Il avait promis, par exemple, de donner 500 dinars à chaque chômeur tunisien. Quatrième parti, le Forum démocratique pour le travail et les libertés, Et Takatol, du docteur Mustapha Ben Jaffar, qui va peser aussi avec 20 députés de la gauche, qu'on pourrait qualifier une gauche social-démocrate, un peu modérée. Viennent ensuite le Parti démocratique progressiste, le PDP, le centre-gauche laïque, dont on attendait peut-être mieux, mais qui ne fait que 16 élus. Le parti de M. Chebbi et de Madame, la première femme qui intervient, Maya Djribi. Ensuite viennent différents petits partis, le Parti démocratique moderniste, 5 sièges, l'Initiative, qui regroupait des anciens partisans de Ben Ali, 5 sièges, l'AFEC, qui est un parti libéral, 4 sièges, l'Alternative révolutionnaire, ancien communiste, qui obtient 3 sièges, et le MDS, qui obtient 2 sièges. Ensuite, les 16 sièges restants vont à différents partis.
On a l'impression qu'il y a une composition finalement qui montre un certain équilibre avec des guillemets, mais ça, enfin, assujetti un petit peu à la réponse à la question de savoir si la modération du parti majoritaire va rester ou si cette modération va être moins modérée une fois aux affaires.
Ils n'auraient pas intérêt, à mon avis, à changer, parce que c'est la modération qui fait leur succès. Il y a l'exemple turc.
Oui.
Duquel il se réclame. Et il faut voir aussi là-dessus que les Tunisiens ont été extrêmement réfléchis et ils ont voulu éviter le drame algérien.
Oui.
Il faut rappeler qu'en Algérie aussi, en 91, il y a eu un parti islamiste, mais qui n'était pas modéré, qui se présentait comme un parti islamiste dur, qui avait remporté les élections.
Oui.
Et ces élections, l'armée qui était au pouvoir en Algérie les a interrompues. Le président de la République a été mis à l'écart, il y a eu un changement. Et puis, de ces élections interrompues, qu'est-ce qu'il est advenu? Il est advenu une guerre civile de 10 ans, 150 000 morts, des milliards dépensés. Cette tragédie algérienne, je pense que les Tunisiens veulent et voudront toujours l'éviter.
Oui, une histoire contemporaine qui est plus présente à leurs esprits qu'aux nôtres.
Très certainement. Alors, quel est l'avenir? L'avenir, maintenant, l'Assemblée constituante va se réunir le 22 novembre pour la première fois. L'Assemblée constituante va devoir donc travailler à la rédaction d'une constitution. Elle se donne, je crois, un maximum de 1 an pour y parvenir. Elle va devoir élire un président de la République et un gouvernement. On se demande ce qui va en advenir. Mais ce que je voudrais, pour terminer, c'est évoquer la démographie. Il y a une chose qu'on ignore totalement. La démographie, ça n'est pas qu'un banal indicateur d'un état des lieux, d'un pays ou d'une région. Elle est surtout un révélateur des mentalités plongeant au plus profond de l'ordre de l'intime. C'est l'union entre individus, c'est leur sexualité, c'est la reproduction, c'est les relations parents-enfants, c'est les mésententes, le divorce, la mort enfin. La démographie, c'est une psychanalyse des sociétés. Et que nous dit la démographie ? En Tunisie, le taux de fécondité est actuellement de 2,05%. Le même qu'en France quasiment. Nous, on est à 2,06. Ils sont à 2,05%. Et j'ai été professeur en Tunisie, j'y ai fait mon service militaire comme coopérant dans les années 70. La démographie était à l'époque de 8. Mmh. On est passé en 40 ans de 8 à 2. C'est ce qu'on appelle la transition démographique. On a mis 2 siècles pour la faire, nous, en Europe. Ils l'ont faite en 40 ans. Mmh. Et cette transition démographique nous dit que les pays arabes, parce que c'est aussi la même chose au Liban, c'est aussi la même chose au Maroc, un peu moins en Algérie, mais ça arrive. En Algérie, ils sont à 2,87 taux de fécondité. Ça nous dit que le processus universel qui mène de la révolution culturelle à la transition démographique, puis à la révolution politique, ne pouvait s'arrêter aux portes du monde arabe. Mmh. Cette citation est de Youssef Courbage, un démographe, qui a beaucoup travaillé sur le monde arabe et en particulier qui a travaillé avec Emmanuel Todd. Mmh.
Patrice, merci beaucoup pour cet éclairage sur ces élections qui se sont tenues en Tunisie et dont les résultats donc sont tombés hier. Donc dans une semaine, ils vont se réunir. On aura l'occasion, j'imagine, dans le courant du mois prochain, peut-être de revenir sur l'actualité en Tunisie.
Bien volontiers.
Merci Patrice, au revoir.